Bonjour Yann Brossat.
Bonjour Frédéric Rivière.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent donc ce matin à 11h à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur les quatre postes clés de l'Union européenne. Présidence de la Commission, présidence du Conseil, présidence du Parlement et le poste de haut représentant pour les affaires étrangères. Ils se retrouvent donc après 18 heures de première séance de négociation infructueuse. Pourquoi est-ce aussi laborieux ?
Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que plus l'Europe va mal, plus elle continue à fonctionner comme avant. On a un fonctionnement qui se fait dans l'opacité totale, avec des tractations d'arrière-cour. Et je ne crois pas que ce spectacle soit à même de réconcilier les Européens avec l'Europe.
Par ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, d'ailleurs. Ça donnait une mauvaise image de l'Europe.
C'est sûr, mais je pense que le problème... En Europe, ça n'est pas le casting. Le problème, c'est le scénario. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre sur la répartition des postes, mais on ne remet pas en cause l'orientation politique, économique, sociale de l'Union européenne qui motive le rejet de plus en plus important qu'elle suscite parmi les peuples d'Europe.
Est-ce que vous pensez que le système des Spitzenkandidaten, contre lequel d'ailleurs Emmanuel Macron s'est battu, c'est-à-dire les candidats qui étaient choisis par les grandes familles de l'Union européenne en amont même des élections, est-ce que ce système était meilleur ? Est-ce qu'il était plus démocratique ?
Il était peut-être plus démocratique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui une situation très paradoxale. Les Français... comme les autres Européens d'ailleurs, se prononcent sur leurs députés européens, qui ont finalement assez peu de pouvoir, et dans le même temps, les postes clés de l'Union européenne, eux, ils sont décidés sans l'avis des peuples. Et donc, effectivement, il y a une forme de problème démocratique là-dedans, et qui est à l'origine d'ailleurs des difficultés de l'Union européenne actuelle.
Est-ce que vous pensez que dans les négociations, chaque pays, au fond, défend avant tout ses propres intérêts, sa propre image, cherche à obtenir l'un des postes clés, plutôt que de travailler à une espèce d'intelligence et d'accord dans le commun ?
C'est le sentiment que ça donne, en tout cas, et c'est sans doute de cela aussi que l'Union européenne meurt. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait qu'elle est aujourd'hui dans des difficultés très importantes, absolument.
La Commission européenne, en tout cas, aura signé son départ par une initiative qui est contestée par des représentants de l'ensemble de l'échiquier politique. La conclusion de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, est-ce que vous voyez ça comme une espèce de coup de force ?
Oui, et puis je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est pas le casting, c'est le scénario. Et ben, on en a l'exemple ici, avec un nouveau traité de libre-échange, avec l'Amérique du Sud, un président Macron qui juge que cet accord de libre-échange est bon, après avoir fait de grands discours pendant la campagne des élections européenne en expliquant qu'on allait mettre fin à tous ces accords de libre-échange qu'on n'a pas arrêté de signer depuis maintenant des années. Je crois que ça pose une vraie question qui est une question de société. Est-ce que notre horizon, c'est de faire traverser des océans à de la viande ? Parce que c'est quand même ça, ce nouveau traité de libre-échange. Eh bien moi, ça n'est pas ma vision du monde. Et je pense qu'on ne peut pas faire de grandes déclarations pour l'environnement et dans le même temps, dès le lendemain des élections, signer de nouveaux accords de libre-échange. Ces gens sont des écologistes en peau de lapin, et à un moment donné, il va bien falloir qu'on remette en cause ces accords de libre-échange.
L'encadrement des loyers a fait son retour hier dans Paris. L'équipe de la municipalité de Paris est très fière de cette mesure. D'ailleurs, on peut recevoir par moment une publicité sur son smartphone vantant les mérites de cette mesure. Je ne sais pas si vous-même, vous en avez été destinataire, mais c'est mon cas. Qu'est-ce que vous attendez de cette mesure concrètement ? Parce qu'il s'agit de rendre les loyers un peu plus accessibles, mais la marche est haute.
Il s'agit de poursuivre deux objectifs à la fois. D'abord, il s'agit de rendre les loyers moins cher et ainsi de faire gagner du pouvoir d'achat aux familles parisiennes, notamment aux familles de la classe moyenne qui travaillent à Paris et qui veulent simplement pouvoir vivre à Paris. Et puis deuxièmement, il s'agit aussi de lutter contre la perte de population que nous avons enregistrée depuis quelques années maintenant. Nous perdons 12 000 habitants par an, justement du fait de ces loyers trop chers. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que Paris redevienne une ville accessible à ceux qui produisent des richesses dans cette ville et qui doivent avoir le droit d'y vivre.
Mais compte tenu du prix des loyers, des prix des loyers, vous pensez véritablement que ça permettra à des familles relativement modestes de s'installer au cœur de Paris ?
Il s'agit surtout de stopper l'hémorragie et de faire en sorte qu'elles puissent continuer à vivre ici. On ne peut pas tolérer d'avoir sur un certain nombre de petites surfaces des loyers à 40, 50, 60 euros du mètre carré. Donc, on a besoin que les pouvoirs publics mettent le holà à ce système qui est devenu complètement fou. Par ailleurs, l'encadrement des loyers a fait la preuve de son efficacité. Il a été testé entre 2015 et 2017. Il a conduit à une stabilité des loyers. Et vous le savez, le tribunal administratif a annulé ce dispositif en 2017 et ça a conduit à une nouvelle flambée des loyers parisiens. Donc il s'agit simplement de dire que les loyers doivent s'assagir, être un peu plus modérés, et je pense que tout le monde ira mieux avec des loyers un peu moins chers.
L'Union nationale des propriétaires immobiliers, cette association qui avait obtenu l'annulation du plafonnement en 2017, a annoncé hier un recours devant le Conseil d'État. Est-ce qu'il pourrait de nouveau obtenir gain de cause ?
Non, parce que nous avons aujourd'hui un dispositif juridique qui est stabilisé, donc nous n'avons aucun doute sur le fait que cette demande n'aboutisse pas. Mais je voudrais quand même en appeler aussi à cette organisation, enfin il faut l'appeler par son nom, à ce lobby, et leur dire quand même qu'ils peuvent peut-être passer leur temps à autre chose qu'à pourrir la vie des autres, parce que quand même, depuis l'annulation de l'encadrement des loyers, les loyers ont augmenté de 3% au cours de l'année 2018. Je pense que maintenant ça suffit et qu'on a effectivement besoin d'avoir des loyers qui soient un peu plus en conformité avec les revenus des ménages.
Vous êtes le candidat choisi par le Parti communiste pour les municipales de 2020 à Paris. Est-ce qu'il y aura un candidat communiste jusqu'au bout ?
On verra. Moi, je fais les choses dans l'ordre et les communistes font les choses dans l'ordre. Nous avons mis en place une équipe de campagne collégiale. Nous allons produire des propositions, notamment sur la question du logement, sur la question du pouvoir d'achat, de la gratuité des transports. Nous les présenterons en septembre. Mmh. Nous discuterons avec les autres forces de gauche. Et notre objectif est de trancher la question des listes au mois d'octobre. Si nous pouvons faire le rassemblement avec les autres forces de gauche, nous le ferons.
C'est ce que vous souhaitez.
C'est ce que nous souhaitons. À condition d'être entendu sur le contenu. Moi, je suis convaincu que la gauche se doit se rassembler. C'est d'ailleurs l'une des leçons que je tire des élections européennes. Mais pour se rassembler, encore faut-il qu'elle soit d'accord sur le fond. Ouais,
donc votre idée pour l'instant, c'est de peser, de faire des propositions et qu'elles soient prises en compte.
C'est exactement ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Yann Brossa, aux automobilistes qui n'ont plus le droit de circuler dans Paris depuis hier parce que ils ont une voiture trop vieille pour ça?
D'abord, je comprends les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans le même temps, on ne peut pas dire qu'on a un drame environnemental, qu'on a plusieurs milliers de morts par an du fait de la pollution et rester les bras ballants. Donc on a besoin de mener une politique qui marche sur ses deux pieds. D'une part, on a besoin d'un certain nombre d'interdictions pour les véhicules les plus polluants, mais dans le même temps, de faire monter en puissance des solutions alternatives. Je vous parlais de la gratuité des transports. Il y aura, à partir du mois de septembre, la gratuité des transports à Paris pour les enfants de 4 à 11 ans. On a besoin d'avoir de nouvelles mesures de gratuité dans les années qui viennent. Si on veut que les gens se tournent vers les transports publics, encore faut-il qu'ils soient attractifs sur le plan des tarifs et sur le plan du confort des voyageurs.
Merci Yann Brossa.
Merci à vous.
Journée.